Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au premier album de la nouvelle série du Dr. Aphra. Donc, comme les autres séries ongoing, on est reparti à zéro. Ici Francis, en direct de Québec et en direct de Dijon, hein, si je ne me trompe pas.
N'est-ce pas, la moutarde.
Outre-Atlantique. Ça va Thomas?
Ça va très bien, merci.
Donc, on va rappeler rapidement notre partenaire pour les émissions de littérature. Donc, vous commencez à être habitué. On parle ici de Star Wars Littérature Québec. On vous invite à joindre le groupe et on vous invite à participer à leur collecte de fonds pour la cause de la santé mentale au Québec. Côté émission récente, qu'est-ce qu'on a? On avait notre édition littérature la plus récente hein, sur le Bounty Hunters numéro 2. On voit Valence ici, qui pilote, si on peut dire ça comme ça, un X-Wing. On avait l'émission de Seb et JF sur toutes les infos, et il y en avait beaucoup d'infos, sur le fameux projet galactique Star Cruiser, donc une espèce de je ne sais même pas s'il faut dire hôtel, parce que vu tout ce que Seb expliquait dans l'émission, c'est pas un hôtel que tu peux te pointer et réserver pour une semaine ou... C'est vraiment un événement, on va dire, de deux jours. C'est ça. C'est, je ne sais pas c'est quoi le bon terme, mais bref, je vous invite à écouter ça en vidéo sur YouTube, surtout parce qu'on a énormément d'images, puis de concepts, puis tout ça, là, de ce que ça va être. Et on avait, sinon, en dernier lieu, le plus récent, la conclusion hein, de l'émission Bad Batch, donc les deux, trois derniers épisodes, et dans le fond, un résumé, un bilan, on va dire, de la première saison. Ça, je crois que c'était Sylvain, Aude, Loïc, et je crois que tu étais là aussi, hein, Thomas?
Attends, je suis mute, donc oui, ouais. J'étais là, oui, effectivement. On a bien roulé.
Excellent. On rappelle, comme toujours, d'aller faire un petit tour sur la boutique de Star Wars en direct pour des chandails à l'effigie du groupe. Hein. C'est en partie ce qui finance, par exemple, les serveurs là, pour les émissions, les choses comme ça. Il y a évidemment les concepts, là, vraiment avec les logos de l'émission, les choses comme ça. Ça, on peut voir à l'écran, là, justement, les fameux concepts anniversaires. C'est les 20 ans cette année de Star Wars en direct. Donc, Danny nous a fait un concept de chandail, là, de design, un par film. Donc, moi, je sais que pour ma part, j'en ai trois parmi. Je ne sais pas si je vais tous les commander, mais je les trouve tous très jolis. Donc, je vous encourage. À vous en procurer un, là, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y a toutes sortes d'autres designs là, que Danny fait là, en lien avec Star Wars, dont celui que je porte actuellement, hein, le mashup entre Lego et Star Wars et l'explosion de la première étoile de mort. Donc voilà. Sur ce, je crois qu'on va faire comme d'habitude, on va se garder tout ce qui est WhatsApp et tout ça pour la cantina en fin d'émission. Et on va pouvoir passer tout de suite en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Donc, de retour à côté, avant de passer à notre sujet principal, Thomas, côté actualité littéraire, je crois que c'est relativement calme ces temps-ci. Je ne sais plus si on l'avait mentionné dans l'émission précédente, mais on a Panini, je pense qu'on avait mentionné les
on l'a mentionné, ouais.
Légendes hein, du côté de Panini. Mais on a su aussi que c'est ça, il allait avoir l'album de la guerre des chasseurs de primes. Qui allait venir à l'automne. Et rapidement, on peut mentionner que il va falloir en fait qu'il y ait un rattrapage du côté des séries Aphra, Vador et Star Wars, parce que du côté de Bounty Hunters, on était un album en avance. Donc là, s'ils veulent arriver un peu avec tout en même temps, avec la guerre des chasseurs de primes, pour que ce soit coordonné, j'ai hâte de voir comment Panini va va organiser ça parce qu'ils ont annoncé.
Et la Haute République dans deux semaines.
Oui, exact, c'est ça. On a aussi un album de la Haute République, en plus des albums séparés, là, de deux numéros chacun. Donc, ça fait quand même beaucoup là, d'ici Noël. On va voir comment ça va se goupiller.
D'ailleurs, j'ai changé mon fusil d'épaule là-dessus. Avant, comme j'étais complétiste, j'achetais tout. Y compris, par exemple, l'album sur Choi, où il se passe rien, où personne parle. Et je me dis... ou alors, par exemple, Obi-Wan et Anakin, finalement, où je me suis dit, quand ils se battaient contre les robots, pourquoi je l'ai acheté? Est-ce que c'était utile? Je suis en train de me poser la question, parce que je commence à avoir beaucoup, beaucoup de places de prix dans mes bibliothèques. Je pense que je vais en revendre et que je vais garder que les mieux et que je vais arrêter de tout acheter. Donc, par contre, je pense que je vais continuer de lire. Donc, mon cher ami Loïc, notre cher ami Loïc, qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir, je tiens à le remercier parce qu'il m'a prêté Dr. Aphra, là, le tome 1, là, qu'on va chroniquer. Et juste pour poser le décor, moi, Dr. Aphra, c'est la seule série que j'ai commencé, enfin, que j'ai arrêté d'acheter. Sur la première série ongoing. Et là, du coup, Loïc me dit « Ah, si tu veux, je te prête le tome 1, comme ça, tu peux venir faire l'émission avec nous. » Et parti de ce point de vue-là, je dis « Allez, ok, je le lis, mais parce que je ne l'ai pas acheté, et voilà, ça me fait, je l'ai lu vite fait, par contre, mais je vous donnerai ma critique par la suite, mais ça partait pas gagnant pour moi, quand même. Mm-hmm. » Et finalement, maintenant, je me suis dit « Voilà, je vais maintenant acheter uniquement ce que j'aime. » C'est un petit peu comme la Marvel. Pendant un temps, j'achetais tout ce qui sortait, que ce soit en intégrale ou en nouveauté, c'est-à-dire les formats de luxe, j'achetais tout. Là, maintenant, j'ai plus de place, donc j'en revends et maintenant, je suis sélectif, on va dire. Et donc, par contre, la Haute République, celui-là, je l'achète. Enfin, je veux dire, c'est tellement bon ce qu'ils nous font sur les romans que là, je vais tout acheter sur la Haute République, mais je vais filtrer.
Ben, c'est sûr, c'est un deuil à faire pour toi, là, l'aspect complétiste, hein, mais je te comprends. Mais c'est ça, c'est un choix effectivement que t'as à faire. C'est sûr que là, pour l'événement de la guerre des chasseurs de primes, c'est ça, si t'as pas.
Je pense que je vais l'acheter.
C'est ça, ça en tout cas, c'est.
Parce que je continue le Star Wars et je continue le Vador et je continue le Bounty Hunter. C'est les trois ongoing que je fais. Donc, a priori, comme ça va être crossover des trois, bah, je vais le prendre.
Mais c'est excellent, écoute. C'est ça, je continue de tout prendre, mais comme j'avais mentionné, je crois, à l'émission précédente, il y a l'édition collector là, que Panini a prévu pour la guerre des chasseurs de primes, que je sais pas si je vais prendre, parce que ça m'avait coûté un bras et une jambe là, pour faire venir les éditions collector de Star Wars et de Vador, donc c'est ça,
je vais étudier. Et alors lire avec un bras, c'est pas pratique en plus.
Non, à moins que je connaisse quelqu'un qui va être en France ou va y aller dans ces dates-là. Là, qui
pourrait. Et alors, un autre truc que je voudrais dire sur Panini, puisqu'on parle des nouveautés, il y a une grosse news qui est tombée chez Panini, c'est que maintenant, ils vont éditer un omnibus par mois. Je sais pas si tu lis un peu de Marvel en français. En fait, Marvel, ils ont des. Je vous en montrerai un, j'en prendrai un la prochaine fois. Ils ont des gros bouquins, mais c'est des monstres. Hein. Là, par exemple, j'ai acheté l'Ultimate Spider-Man tome 1, qui fait 1000 pages le truc. Et il y en a qui font. J'ai le R6, je crois qu'il doit faire 1200 pages ou 1400 pages. C'est des monstres, hein, les trucs. Enfin, c'est. Tu les portes avec un collègue hein, pour les amener chez dans ta bibliothèque. S'ils en font un par mois, ils ont sorti des trucs hallucinants comme le tombeau de Dracula, je sais pas si ça te parle, hein, des vieilleries. Et là, ils nous disent qu'ils vont en sortir un par mois. Donc là, ils ont annoncé Heroes Reborn, ils ont annoncé plein de super trucs chez la Marvel. Et je me dis, à un moment, vu que Star Wars ça marche bien, que les omnibus ça marche bien, est-ce qu'ils vont pas nous faire ce genre de bouquin chez la Star Wars? Donc moi, c'est ce que j'aimerais bien. Je sais pas si ça peut se faire parce que je crois pas que ça existe en version américaine. Et les fameuses intégrales qui vont sortir de Star Wars Légende, ils s'inspirent du format américain. Donc faudrait voir s'ils ont pas des omnibus, mais ça pourrait être des trucs super cool. Ou tu vois par exemple l'intégrale de la série, par exemple Dark Vador, boum, elle pourrait tenir en un seul tome. Un truc, puis avec du grand format, bien plus gros que les 100%. Donc ça, c'est... Voilà, je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous sortir et je pense qu'il y a moyen de s'en régaler.
Ouais, ben c'est ça, on va voir ce qui va en être. Donc à ce moment-là, on va y aller... je vais faire un résumé succinct quand même.
Allez, vas-y.
Dans le fond, on retrouve... je suis en train de me demander, là, peut-être mentionner comment se terminait la première série, hein. C'était Afra avait lié des liens avec avec des rebelles, avec sa, elle avait une pupille aussi, le Villanoualou. J'ai jamais réussi à prononcer son nom. C'est un nom scandinave, on va dire. Mais c'est ça, les liens sont coupés. Hein. Elle les a abandonnés sur Hoth, là, son père, son, sa maîtresse, on va dire, et sa pupille. Donc là, on repart à zéro avec des nouveaux équipiers, on va dire ça comme
alors,
ça.
Alors du coup, j'aurais des questions à te poser, Francis. Pour poser le contexte, ça peut toujours animer un peu le truc. À savoir que moi, quand j'avais quitté Dr. Aphra, elle était avec les deux droïdes psychopathes, plus son Black Wookie. Et là, je reprends l'histoire, les robots psychopathes disparus, le Black Wookie, il est toujours là, mais on a plein de nouveaux persos. Elle a piqué le petit droïde de Fallen Order, là.
C'est un concept qui ressemble, oui, mais c'est pas...
Oui, voilà, ça ressemble. C'est, bon, je pense, j'ai compris que c'était pas le même, mais voilà, c'est le même type de droïde, manifestement. Donc c'est plutôt bien d'avoir repris. Je sais pas d'où il sort. Il y a un espèce d'ado, le brun, là, Busty, là.
Ouais, Just Lucky, là, qui entre.
Ouais, Just Lucky, pour moi, c'est Bucky, tu vois. Je sais pas d'où il sort non plus. Donc il y a des personnages.
C'est tous des...
Ils viennent d'où? Tu les as jamais vus non plus, toi?
Non, il y a juste Black Constantin, le Wookiee noir qui revient. À part ça, c'est tous du nouveau. Par contre, dès le deuxième arc, on va avoir le retour de personnages du passé.
Mais, et qu'est-ce qui s'est passé de ces anciens persos? Ils sont où? On les a vus abandonner dans les anciens tomes?
Ben écoute, considérant que c'est plusieurs tomes, je te dirais retourne écouter nos émissions avec Loïc ou Malgus. Mais effectivement, les droïdes sont plus là, sont partis de leur côté. Ou en fait sont en partie détruits. Donc ça, c'est pas impossible qu'on les revoie. C'est pas impossible parce qu'il restait la... Ben, je veux pas spoiler nécessairement.
Mais par contre, le qui machin, on sait pas d'où il vient, lui.
Non, on va le découvrir au fil de la série actuelle d'Aphra. Donc c'est tout un nouveau personnage. Le petit droïde dont tu parles, en fait, il est pas à Aphra, il est à la professeure qui vont recruter au fil de l'album. Donc c'est ça, c'est tous des nouveaux personnages.
La Myriane.
Ouais, la peau verte là. Avec
C'est la même race que Vernestra dont on avait parlé la dernière fois. Luminara Unduli, compagnie, Barry Sophie, tout
même
ça.
Même chose avec l'étudiante, on va appeler ça comme ça, là, qui les accompagne. C'est tous des nouveaux personnages. Ben c'est ça. Pour revenir sur le résumé, voilà, c'est que on une Aphra qui retombe un peu dans le mode archéologue. On comprend qu'elle est, elle fait équipe, c'est ça, avec un personnage. En anglais, c'était Lucky, Just Lucky. En français, ils l'ont traduit cette fois-ci. D'ailleurs, on en parlera plus tard, mais côté traduction chez Panini, il y a quelque chose qui m'échappe, mais bref, on en parlera plus tard. Donc là, il s'appelle Chance, le personnage. Il fait équipe avec Aphra et on comprend qu'elle est dans un mode là, tu sais, pillage de tombes et on se fait de l'argent en revendant ça à des musées et des universités. Mais elle va être recrutée elle-même, si on peut dire, se faire offrir un projet par une étudiante. Qui a eu des pistes là, sur des objets sacrés. Ils vont aller recruter une ancienne, encore une fois, une ancienne maîtresse d'Aphra, donc qui est aujourd'hui professeur un peu en disgrâce. Mais c'est ça qui, encore une fois, elle a gardé des liens pas très bons avec Aphra. Fait qu'elle n'est pas nécessairement contente de l'avoir débarqué. Ils vont tous se monter, cette belle équipe-là. Il y a aussi le fameux Wookiee dont on parlait. Qui les accompagne. Donc, ils vont aller sur une planète morte où est-ce qu'il y a juste des ruines là, d'une ancienne civilisation éteinte depuis longtemps. Civilisation que, bon, les rumeurs disent qu'elle serait hantée, etc. Ça reste à le découvrir. Aphra est très sceptique, on va dire, de ce concept-là, que ce serait vraiment hanté. Là. Elle dit qu'il y a toujours des explications logiques. Ils vont aller sur place, il y a un baron de la paix, c'est pas un baron de la paix, plus c'est ça, on n'est pas avec la paix cette fois-ci, on est plus avec des hommes, des milieux, tu sais, des ultra-riches là, qui ont leur propre armée privée pis ça, qui vont envoyer ses troupes parce qu'ils convoitent le même objet, le même artefact.
La famille Tag.
C'est la famille Tag, en plus c'est ça, la même famille que notre fameux général. Et une famille qui va être au cœur de la série Aphra, là, même dans les numéros suivants. Mais bref, voilà, fait que c'est un peu une course au trésor entre les deux équipes. Et la planète, vraiment, il y a vraiment une ambiance de sorcellerie et de effectivement de quelque chose de hanté. Mais c'est ça, Astra continue de dire qu'il y a des explications logiques à tout, etc. Ils vont finir par trouver... En fait, l'artefact en question, c'était des anneaux. C'était deux anneaux là, différents avec des pouvoirs apparemment magiques. Mais bref, ils vont en trouver juste un. Ils vont finir par se faire damer le pion par l'équipe là, du fameux Tag. Et on va apprendre que c'est lui qui avait l'autre anneau. Et c'est ça, ça donnerait des pouvoirs suprêmes, bref, quand on réunit les deux. Mais Aphra, dans sa typique à elle-même, va échafauder un plan pour le piéger et va finir par l'exécuter carrément. Là. Parce que c'est un gars que lui, ce qui le faisait triper, c'est de mettre la main sur des artefacts du passé et de les détruire. Pour se dire dans sa tête, j'ai été le dernier à être vivant à toucher à tel objet. T'sais, c'est comme si on avait, mettons, le soir de Turin, mais c'est ça ton but, c'est de mettre la main dessus pour le détruire. T'sais. Fait qu'évidemment, Aphra et personne de toute l'équipe l'aiment. Fait que c'est ça. Elle va finir par le faire mourir et l'album va se terminer sur un autre membre de la famille Tag, donc la grande sœur, je pense, là, quelque chose comme ça, de celui qui est mort.
Lady Domina.
C'est ça qui va dire à son sous-fif, ben vous allez me trouver toutes les infos que vous avez sur Dr. Aphra.
Sachant que Lady Domina, c'est un personnage qui a déjà existé, qu'ils ont pris de l'UE Légende.
Ah, tu vois, ça, j'ignorais totalement. Ouais. Fait que c'est succinct, évidemment, là, mais c'est 5 numéros, cet album-là. J'ai pas fait, c'est vrai, la technique, hein. Mais c'est un album, c'est ça qui regroupe les numéros 1 à 5, 17€, donc pour 112 pages. Évidemment, il se passe en même temps que les trois autres séries ongoing, là, donc en plus 3, fait après l'Empire contre-attaque. Ouais. Au scénario, on a Alyssa Wong, qui est une nouvelle dans le petit monde de Star Wars. Au dessin, on a Marika Cresta, elle aussi, c'est une nouvelle. Et en couverture, on a Valentina Reménard. Je suis pas certain si c'est une nouvelle ou pas, j'ai pas réussi à trouver l'information pour elle. Donc, malheureusement, Loïc, qui a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais qui nous a laissé son avis sur cet album Aphra-là. Et on rappelle que Loïc détestait les aventures d'Aphra dans la dernière série. Et donc, je vais te demander, Thomas, si tu peux nous lire l'avis de Loïc sur la question.
Très bien, Francis. Je vais donc ouvrir l'avis de Loïc. Alors... Loïc nous dit « Je sais ce que vous vous dites, chers auditeurs. Loïc n'aime pas la série Aphra, mais il n'a pas pu s'empêcher de transmettre son avis pour déverser tout son fiel. Eh bien non, j'ai au contraire beaucoup aimé cet album. On revient ici en terrain plus balisé, plus Star Wars. On est sur de l'archéologie pure et dure, une vraie histoire d'aventure. Des chercheurs envoyés presque par un milliardaire pour retrouver un artefact qu'il convoite pour son usage personnel. Une équipe haute en couleurs, faite de personnalités très diverses. Des rebondissements, des trahisons, des plans qui échouent, d'autres qui réussissent. Toute ressemblance avec un archéologue fictif ayant existé est purement fortuite. On est bien d'accord. J'ai aimé ces rebondissements que l'on voit venir de loin, même si ce n'est pas le personnage qu'on attendait. J'ai aimé cette quête et ces artefacts. J'ai aimé le méchant qui est un pur salaud richissime, égoïste, égocentriste, et complètement cinglé. J'ai adoré Aphra et ses relations foireuses qu'elle croise et entretient avec de nouveaux personnages. Bref, je me souviens que j'avais aussi aimé le volume 1 de l'ancienne série, mais j'avais été perdu dans sa suite. Alors, si la série garde cette âme aventurière et ancrée dans l'univers Star Wars, il y a même une référence à la Haute République, c'est vrai. Il se pourrait bien que je redevienne un lecteur plus assidu. Donc là, il parle du vaisseau qu'il retrouve de l'ancienne République. Côté dessin, je trouve que c'est très faible. Pour moi, les séries Star Wars devraient accueillir des dessinateurs 5 étoiles. C'est ce que mérite l'univers de la saga. On donne pas sa note pour l'instant.
Ouais, on va garder sa note pour l'instant.
On se doute qu'il met une bonne note, ce coup-là.
Exact, exact. Donc, excellent. En tout cas, je pense qu'on peut dire que c'est surprenant de la part de Loïc quand on va garder sa note pour la fin, mais... quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, Loïc est brisé. Mais c'est une bonne nouvelle. Je suis très content que Loïc... En fait, j'aurais pas prédit ça parce que moi, personnellement, ça sera pas mon album d'Aphra préféré. Mais avant de donner mon avis, si je te demandais, toi, Tom, qu'est-ce que t'en as pensé de cet album-là?
Alors, justement, c'est pour ça que je vous ai dit qu'à la base, je suis plus très super copain avec Aphra. Moi aussi, j'avais bien aimé le premier tome. Mais je considérais que c'était pas du Star Wars. Et là, à nouveau, j'ai beaucoup aimé ce tome. Peut-être même plus que le premier. Enfin, égalité avec le premier. Je trouve qu'effectivement, l'ambiance Indiana Jones, comme a dit Loïc, on la ressent. Je suis vraiment d'accord avec beaucoup de choses qu'il a pu dire dans son court commentaire. Déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est toutes les références. C'est fourni. C'est vraiment très fourni. Donc, la petite nouvelle, là, qui nous fait le scénario, vraiment, elle a fait un effort de Star Wars. On a la Haute République effectivement à plusieurs fois à travers un vaisseau, à travers les fameuses ruines dans lesquelles ils vont. On nous parle de Canto Bight. D'ailleurs, on voit Canto Bight, hein, donc ça c'est très intéressant parce que ça ancre, on va dire, la postlogie dans l'univers Star Wars. Hein, donc ça c'est très important. Et puis on voit qu'ils ont des appartements privés, c'est-à-dire qu'on va fouiller un peu plus le décor. Donc ça me plaît beaucoup. Il y a une référence au Beskar, d'accord. Donc là c'est la référence à Mandalorian. Donc ça c'est plutôt sympa. On a la référence avec la famille Tag, dont il y avait un des généraux qui d'ailleurs survit à la destruction de l'étoile de la mort, même si on le voit dans l'épisode 4, parce qu'il a été évacué avant, et il est mis en avant, je crois, par l'empereur, hein, par la suite, parce que...
Bah, il devient même le patron de Vador pendant un certain
temps. Le patron de Vador, ouais, c'est ça. Mmh.
Donc ça, c'est... pendant que tu parles de lui, puis que c'est ça, sa famille là, va être liée encore une fois à Aphra, mais je sais pas si tu le savais, mais il y a un récit canon d'Aphra et Tag qui se rencontraient. C'était dans le recueil From a Certain Point of View, le premier.
Ah non, j'ai pas lu ça.
Ouais, donc il y avait, tu sais, c'était 40 petites histoires là.
Ouais, je vois ce que c'est.
Et il y avait justement une des histoires, c'était Tag et Aphra. Donc je crois que c'était sur Dantooine. Ça se passait sur Dantooine. D'accord. Leia, elle disait dans l'Étoile de la Mort que la base était sur Dantooine. Donc là, Tag, avec une équipe, allait investiguer ça et tombait sur Aphra et là demandait « Qu'est-ce que tu fais sur un site qui vient de nous être donné comme des rebelles ?» ou en tout cas. Bref, c'est une courte histoire, là, mais c'est ça. Ils ont un passé déjà commun. J'ai trouvé ça drôle de revoir cette famille-là dans cet album-là.
Et alors, donc, cette famille, elle est d'autant plus importante. Alors, moi, de mémoire, mais ce serait quand même à vérifier, pour moi, les Dinomina, elle apparaissait justement dans les Marvel Star Wars de l'époque, les tout premiers. À revérifier encore une fois. À mon avis, tout comme Bellert Valance, qu'on a vu dans le Bounty Hunter, c'est un élément des Marvel Star Wars qui a été réintégré, des Marvel Star Wars des années 70-80, qui a été réintégré. Au même titre d'ailleurs qu'il y avait un personnage, un espèce de lapin vert, donc qui fait pas du tout Star Wars pour le coup, qui a été réintégré dans les Star Wars Adventures.
Donc, ouais, les comics jeunesse.
Voilà, comme quoi finalement, ces Marvel Star Wars, ils font aussi partie du background en fait dans lequel on va puiser pour réécrire l'univers, mais plus propre, plus coordonné, on l'espère en tout cas pour la suite. Et donc Lady Domina, elle fait partie de cette famille Tag, hein, qui a l'air très influente. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on a l'impression que c'est peut-être ce qui manquait à Aphra avant, où on avait une quête puis une autre, où là on a l'impression qu'il va y avoir un fil conducteur sur l'ensemble du nouveau ongoing. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on sent que les Tags, ça va être l'antagonisme de l'autre côté, l'antagoniste par contre de Aphra, avec une vraie raison finalement, puisque en plus il va y avoir, ça va être sur fond de vengeance, puisqu'on voit que le fils à papa, il est pas mort, il a été cramé à la fin, et donc il va vouloir se venger. Et Lady Domina, voilà, c'est un personnage qui est plutôt, tu peux googliser, tu vas trouver des photos d'elle si tu veux, Francis, Lady Domina.
Qui dans l'album.
Tout à fait, ouais, qui est très influente, donc ça c'est intéressant encore une fois. Donc elle est mieux dessinée qu'à l'époque, mais voilà, donc ça c'est très sympa aussi. Alors ensuite, pour ce qui est des nouveaux persos, j'ai eu du mal à les intégrer en me disant, bah du coup finalement toute cette période où j'ai lâché la série Docteur Aphra parce que ça me saoulait tout simplement. Ça m'a peut-être manqué au départ parce que je me disais, mais qui sont ces personnages? Néanmoins, ça m'a pas empêché de rentrer dans le récit. Finalement, c'est assez normal puisque finalement, ces personnages, on les connaît pas. C'est à part Kerstan le Noir. On va avoir l'explication par la suite et c'est tant mieux. Donc, ça veut dire que celui qui n'a jamais lu Aphra auparavant peut aussi attaquer là-dessus. Ou celui qui a été déçu du récit auparavant peut retenter sa chance. Voilà, c'est-à-dire, c'est aussi ça le but de renuméroter une série, c'est de pouvoir redonner une chance à
à un produit. Donc ça c'est intéressant. Alors après, au niveau de au niveau du ressenti, ce que j'ai bien aimé, c'était les questionnements sur la taupe. Effectivement, on se demande qui c'est. Il y a plusieurs mini-intrigues à l'intérieur, donc ça, c'est bien amené. Alors après, par contre, on sent quand même le côté... moi, ça m'a fait penser... Alors ça, c'est pour le côté positif. Hein, Indiana Jones, effectivement, qui est présent. Ça fait plutôt Star Wars, donc ça, j'ai bien aimé. Il y a un petit côté Scooby-Doo. Je m'explique par là. Scooby-Doo, il y a un mystère, ah, mais à la fin on trouve et on retombe toujours sur nos pattes. Et là, j'ai quand même cette impression que Afra, alors, sauf s'il y a le fil conducteur de la famille Tag qui nous fait avancer, moi dans ma tête, Afra, c'est ah tiens, on a un nouveau trésor à trouver, allez les amis, partons à sa recherche. Et ah, on n'y croit pas, ça n'existe pas, ah bah si, on le trouve à la fin, c'est magique. Bon, voilà, c'est un peu le côté une quête. Un arc narratif, une quête, un arc narratif. Et voilà, ce qui peut me rassurer, comme a dit Loïc, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais alors, peut-être quoi, Francis, t'as lu la VO par la suite. J'ai cette impression que ça va être un truc un peu plus construit. Donc voilà, il y a cet élément-là. Et il y a une autre chose que j'ai bien aimé, c'est la problématique des universitaires. Donc, ouais. Du coup, moi qui travaille à l'université, bah, ça m'a parlé parce que les problématiques des gars, c'est vraiment bien ciblé. C'est-à-dire qu'en fait, pour une grande partie d'entre eux, et, c'est des gars qui sont passionnés par la recherche qu'ils font. Ils ont ces problèmes d'avoir des crédits, à la fois d'avoir des crédits et d'avoir de la crédibilité vis-à-vis de leur père. Mmh. Il n'y a rien de pire que de ne plus avoir de crédit ou plus de crédibilité, ou les deux. Et là, on se rend bien compte que ce personnage, il veut récupérer ses crédits pour poursuivre ses recherches, et il veut de la crédibilité vis-à-vis de ses pairs. Et ça, c'est vraiment un truc hyper important pour un universitaire, parce que avoir de la crédibilité dans les recherches, c'est une forme d'ego, d'accomplissement, et c'est très très important. Et on le ressent bien à travers ces personnes. Bon, il y en a une qui est
l'étudiante qui veut écrire sa thèse.
Il y a différents statuts. Il y a celle qui veut créer sa thèse et qui veut être dépendant des universitaires, mais avec cette problématique de, et ce que Afra décrit, c'est assez intéressant, de se faire bien voir par le reste du groupe pour être validé. C'est-à-dire que des fois, si je suis un peu trop rebelle et que je dis un peu trop où je veux aller et que je m'affirme un peu trop, on peut se faire mal voir, non pas parce qu'on n'est pas bon, mais parce qu'on n'a pas su être copain avec les bonnes personnes. Et ça, c'est un truc qui est important, je pense, dans le monde de la recherche, parce que c'est une problématique qui existe. Et on le voit bien, Afra, qui à un moment se prend la gueule avec pas les bonnes personnes, ça va pas la servir.
Il y a quand même cette problématique. La professeure, dans le fond, est tombée un peu en déchéance, là, ou un peu comme tu dis, a perdu sa crédibilité, justement parce que elle défend l'existence, elle dit que cette fameuse cité maudite-là, là, perdue, existe, alors que tout le corps scientifique considère que c'est un mythe. Donc,
c'est un peu comme les platistes versus la Terre ronde, quoi. Ouais. Et voilà, quoi. Donc c'est intéressant.
On l'avait un petit peu, ça aussi. Puis il y a quelques petits flashbacks, là. On l'avait déjà dans la première série. Mais je pense que beaucoup de gens étaient passés à côté parce que je pense que c'était dans un annual. Puis là, on voit des flashbacks de ça. Quand Afra était à l'université, puis là, c'est ça, se prenait le bec avec son maître de thèse ou je sais plus quoi. Fait qu'on revoit ça. Et les gens qui ont écouté l'audio-drama Dr. Afra vont aussi voir certains liens parce que dedans, on était beaucoup sur sa période. Il y avait quand même des extras sur sa période universitaire. Là, donc, je ne sais pas si tu avais pris l'audio-drama en anglais.
Non. Non, en anglais, moi, on fait deux. Hein.
Mais ouais, c'est vrai que c'est une thématique qu'on ne voit pas sinon dans le reste de Star Wars. Hein, fait que c'est intéressant de voir ça.
Donc, du coup, il y avait de la crédibilité pour moi. Et donc, si je devais donner un avis final sans donner ma note pour l'instant, parce que je vais rebondir souvent sur ce que tu vas me dire, c'est bah finalement, j'ai beaucoup aimé. Alors, de là à l'acheter, je sais pas, parce que je suis sceptique pour la suite. Je sais pas si c'est quelque chose que je relirai, mais j'ai passé un très bon moment. Donc, entre à éviter, à acheter ou au moins à lire, bah, je prendrai au moins à lire. Et pour ceux qui sont fans de Dr. Afra, pour moi, il faut carrément l'acheter. Voilà, sachant que c'est toujours le problème des ongoing. Je trouve ça bizarre d'acheter un tome, mais pas les autres. Vous dire acheter juste le tome 3 et le 8 et le 12, enfin, dans la bibliothèque, c'est horrible, quoi. Soit tu fais l'ongoing en entier, soit tu le fais pas. Et donc, du coup, je voudrais vraiment remercier Loïc de m'avoir prêté justement son Dr. Afra, parce que j'ai passé un très bon moment. Je suis très content d'avoir lu ce truc-là. C'était vraiment cool. Donc, un grand merci à Loïc, même s'il n'est pas avec nous.
Avec ça, c'est drôle. Je vais donner mes différents commentaires sur ce que tu disais, mais c'est drôle parce que là, ça va être complètement l'inverse. Je suis vraiment à contre-pied là, avec vos avis à toi et Loïc. Moi, de mon côté, ben, j'avais pas nécessairement d'attente. Là, je voulais du nouveau parce que vous avez réécouté les émissions sur les différents AFRA, là, mais c'est ça, il était temps qu'on passe à autre chose. Et comme tu dis, on repart vraiment de zéro. Quelqu'un qui n'a pas fini la série, comme c'est ton cas, peut repartir de zéro. Bon, comme tu dis, au pire, tu vas te demander c'est qui ces personnages-là, mais c'est des nouveaux personnages, donc c'est pas dramatique. Mais c'est ça, beaucoup intro de plusieurs nouveaux personnages, mais un de ces personnages-là, c'est encore une ex. Tu sais, quand je dis ex, c'est une ex-maîtresse, là.
Ça, c'est rigolo aussi.
Amante d'Afra, de l'époque où elle était à l'université.
Elle a un côté Harrison Ford en féminin.
Ouais, mais c'est sauf que c'est redondant pas à peu près de Sana Staros, que c'était exactement ça aussi. C'était une collègue étudiante d'Afra que les deux avaient eu une histoire d'amour à l'université. Donc, à un moment donné, là, vous ne vouliez pas trouver autre chose ou en tout cas. Tu sais, ça se demandait si Afra a sauté toutes les femmes de son cursus, de sa promotion à l'université. Détail. Mais retour à l'archéologie. Hein, on est vraiment. Parce qu'avec la série Afra, on s'était quand même beaucoup éloigné de l'archéologie. Là, on revient à ça comme c'était le premier album d'Afra. Scénario relativement simpliste. Tu sais, parce qu'on a eu avec la série Afra souvent des affaires compliquées, dures à suivre. Là, on revient à un scénario beaucoup plus simpliste. Moi, j'ai trouvé presque plus jeunesse qu'adulte. Quasiment plus digne de, mettons, Star Wars Adventure, là, les comics jeunesse, que Marvel. Mais bon, certaines bonnes idées, certaines originalités, mais j'ai trouvé que souvent, c'était juste effleuré là, quelques pages et on passe très rapidement à autre chose. Puis, un des exemples parmi ça, c'est justement, là, on quitte enfin, pour une fois, on quitte l'Empire, les rebelles et les groupes criminels pour se tourner vers autre chose. Là, on est chez les aristocrates, les méga-riches, comme je disais tantôt, les grands industriels. On avait eu ça un petit peu au début du canon, avec il y avait le comte Vidian et d'autres personnages liés à l'aspect industriel de l'Empire. Là, on avait ça dans certains romans et BD. Fait que c'est ça, on a un petit retour à ça. Ça, j'ai trouvé ça original. Ça va faire justement différent parce qu'on s'entend là, que les méga multinationales, etc., de ce monde ont un rôle important dans la vie de notre société. Fait que je pense qu'on peut supposer que c'est la même chose dans Star Wars. C'est ça, j'ai trouvé, en tout cas, on va voir avec les autres albums après, j'ai trouvé qu'on faisait juste effleurer très, très, très en surface le concept. Puis même le personnage d'Afra, moi, j'ai trouvé qu'elle était pas si reconnaissable que ça. C'est sûr qu'on pourrait se dire qu'elle a maturé depuis la première série. Mais c'est ça, j'ai trouvé que dans celle-là, elle était plus malhonnête qu'irrévérencieuse. Tu sais, c'est ça. Plus fourbe, alors qu'Afra, c'était l'imprévisible total. Tu sais, bon. C'est ça.
Tu trouves qu'elle est mal caractérisée par rapport à avant, c'est ça?
Pas parfaitement caractérisée. Surtout si je compare, par exemple, avec l'audiodrama où là, il était allé chercher parfaitement, on reconnaît tout de suite là, le caractère d'Afra. Ici, j'ai trouvé qu'on l'avait un peu moins. Mais évidemment, c'est alors, ça, moins irresponsable, mais on pourrait me dire, c'est ça, avec tout ce qui est arrivé, elle a maturé, bon.
Et ça, aussi, peut-être que nous, avec l'UX, on l'a pas ressenti, parce que peut-être on a décroché d'Afra et qu'on y est moins sensible, finalement, tu vois?
Ouais, ben c'est ça, c'est possible. Là. C'est sûr que moi, j'ai suivi toute la première série. Comme je te dis, j'ai pris l'audiodrama aussi, qui amenait quand même beaucoup d'extra là, à ce qu'on avait eu dans les comics.
Je pense pas que l'UX ait lu l'audiodrama non plus, si c'est de l'anglais.
Non, c'est ça. Ben, je pense que maintenant, il est disponible aussi à l'écrit. Fait que c'est soit en audio, vraiment audio-drama, là, tout un, toute une...
Ouais, mais toujours en VO.
Ou, ouais, c'est ça, le script. Mais comme tu dis, c'est en anglais. Puis c'est pas dans les plans de Pocket de publier ça pour l'instant, de traduire ça. Côté graphisme, Loïc l'a mentionné un peu en fin de critique, là. Moi, j'ai détesté. j'ai trouvé ça laid. J'ai trouvé ça simpliste, sans intérêt... inconstant là, en termes de visage ou de peu importe de vaisseau, tout ça.
Surtout les personnages secondaires. La clique là, avec le Duros et compagnie. Des fois, tu sais pas si c'est un calamarien ou je sais pas quoi, tu vois, de loin.
Les visages, c'est très très féminisé. Des fois, tu te demandes si tu es un homme, si tu es une femme. Il y a plusieurs personnages qui se ressemblent énormément parce que justement, c'est très simpliste là, comme dessin. Sinon, il y a juste les décors. J'ai remarqué que sur les décors, il y avait souvent des affaires très réussies, entre autres aussi avec la colorisation. Pense entre autres à la fameuse cité. On la voit un petit peu sur une des couvertures, mais avec tous les murs sont un peu comme des bas-reliefs de gens qui ont été pris dans les murs, on va dire. Là, et ça fait très angoissant, etc. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était très bien réussi, mais pour le reste, c'est un style. Écoute, j'ai l'impression que c'est intentionnel, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a eu... Ben, t'es quoi, je sais pas si la dessinatrice a manqué de temps ou quoi, mais c'est ça. J'ai trouvé que c'était grossier pas mal. Mais il y a des rares exceptions. C'est ça, des rares pleines pages là, avec de l'effort, justement, en cliffhanger pour nous donner envie du prochain. Je pense entre autres à la finale avec Domino Tag. C'est ça, j'ai trouvé ça très, très joli. Là. Mais malheureusement, c'est pas du tout représentatif du reste de l'album. Donc, voilà. Bonne nouvelle, dans un sens, il y a un changement de dessinatrice là, pour le prochain art. On verra si c'est pour... On va souhaiter que ce soit pour le mieux. Pour la colorisation, par contre, c'est ça, je l'ai touché un peu pour les décors. Là. C'est une dénommée Rachel Rosenberg. Une nouvelle aussi là, dans l'univers de Star Wars. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était réussi. C'est quand même coloré, les ambiances concordent, là, tu sais. Donc, puis côté couverture, je sais pas si je peux remettre l'image là, de toutes les couvertures, mais j'ai trouvé que c'était réussi. On passe moi j'adorais les dessins d'Ashley Witter qui faisait la série précédente. Je trouvais que c'était des œuvres d'art là, sans nom. Cette fois-ci, c'est pas peut-être pas au niveau d'Ashley Witter, mais je trouve que c'est quand même magnifique là, personnellement.
Ah
j'adore
oui, c'est
ça.
Plus joli, hein.
Si je vois ça sur les tablettes d'une librairie, ça me donne envie de l'acheter, ça me donne envie de le lire. Donc voilà, ça c'est très réussi. Mais je crois, si je ne me trompe pas, on la perd pour l'arc suivant. Donc on verra sur les arcs suivants là, si les couvertures sont okay. aussi réussies. Côté, c'est ça. Je m'étais noté qu'est-ce qui arrive avec la traduction chez Panini. Parce que il y a des. Dans certains cas, par exemple, là, on a un personnage qui en anglais s'appelle Lucky. Ou Just Lucky.
Mm-hmm.
On traduit ça par chance. Bon, OK. Jusqu'à là, ça va. Mais par exemple, la série Bounty Hunters, ils ont gardé le titre Bounty Hunters. Alors que dans tous les dialogues, tout ça, on appelle ça des chasseurs de primes.
Même chose. Parce que ça claque.
C'est ça, avec des noms de vaisseaux aussi, des fois. Des fois, on a des noms de vaisseaux traduits, comme c'est le cas, je crois, dans cet album-ci. Et d'autres fois, on garde d'autres noms qui auraient été très, très, très faciles.
Comment ils traduisent le Slave One, d'ailleurs, maintenant?
Ben là, je sais plus, ils ont changé de nom, là, officiellement, finalement.
Justement, j'ai été à la boutique il a aussi changé de nom en boîte Lego.
Ouais, ben Lego, c'est pas tant surprenant, mais il a officiellement aussi changé de nom. Je pense que c'est Fire Spread, une affaire comme ça. Mais il y en a qui disent que c'est la catégorie de vaisseau et non celui-là en particulier. En tout cas, c'est ça. Moi, je veux pas rentrer dans cette polémique-là, c'est un peu inutile, mais bref, c'est ça, chez Panini, il y a quelque chose qui m'échappe dans les traductions, puis traduire le nom du personnage, tu sais, mais à quoi ça sert? Ça m'échappe. Bref, je comprends que Lucky, ça veut dire chance, là, ou chanceux, tu sais, mais bon, peu importe. Puis l'équipe, en général, en conclusion, je reviens toujours, tu sais, quand je dis il y a des changements d'un numéro à l'autre, tout ça. Là, c'est constant, mais c'est quatre nouvelles qui n'ont jamais fait de Star Wars. C'est quatre femmes pour une série sur un personnage féminin. Ben, puis tu sais que je trouve pas que c'est tout réussi. Fait que je suis désolé de dire, là, mais je vois encore ça comme un exemple de discrimination moderne. Là, où est-ce que.
Discrimination
ben, voilà.
positive, tu veux dire?
Ben, moi, j'ai toujours. Tu sais quoi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là non plus, mais quand elle est positive pour quelqu'un, elle est négative pour quelqu'un d'autre. De discrimination positive, j'ai toujours trouvé que c'était une fraude intellectuelle comme concept. Mais tout ça pour dire que Marvel s'en cache pas. C'est quelque chose qu'ils font souvent. Par exemple, sur du Black Panther, ils vont mettre toute une équipe d'Afro-Américains. Donc là, toute une équipe de femmes. Écoute, je suis un peu d'accord quand Loïc dit que c'est plate pour que côté dessinateur, on n'ait pas du 5 étoiles sur du Star Wars. Effectivement, je comprends pas. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'on a pris une petite débutante, là, tu sais, où... Mais il y en a quand même deux sur quatre qui le travail est réussi là, au niveau de la couverture et de la colorisation. Moi, personnellement, je changerais les deux autres. Sinon, en termes d'introduction de série, ben un peu comme on a dit à la dernière émission pour Bounty Hunters, je me demande à quel point, là, évidemment, vous n'avez pas lu les suivants, mais à quel point cet album-là crée des bases pour la suite. Tu sais, mettons qu'on pense à, dans le récent, dans Star Wars, on a la lumière des Jedi, avec la Haute République, qui a vraiment jeté les bases pour bâtir plein d'histoires par-dessus. Là, celle-là, honnêtement, les bases, c'est quoi? C'est que Dominatag va chercher à contacter Afra. À part ça, vraiment pas grand-chose. Fait que moi, dans ce sens-là, c'est pour ça que j'ai pas été du tout emballé comme vous. Je considère que c'est plutôt dispensable, honnêtement, c'est que c'est vraiment un album pour les complétistes. Mais bon, c'est ça. Chacun son Star Wars, comme Loïc aime bien dire. Mais c'est ça. Je trouve qu'on est tellement loin du numéro 1 de la série précédente. Moi, j'avais donné la note parfaite à l'époque au premier Afra là, de 2016 à l'album. Ouais,
j'avais bien aimé le premier, moi.
Et cette fois-ci, honnêtement, c'est ça. On est en très loin. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter, Thomas.
Si, j'ai été vérifié pour Lady Domina. Effectivement, ouais. Elle fait bien partie de la série Marvel Star Wars de 1977. Et j'ai regardé, elle apparaît dans au moins 6 ou 7 volumes. Mm-hmm. Et donc, du coup, elle est déjà au sein de la famille Tag. Donc, mm-hmm. du coup... vous pouvez aller voir sur le wiki, c'est intéressant justement de voir que voilà, ils ont repris pas mal d'éléments là-dessus. Alors certains peuvent dire que c'est un manque de créativité et d'autres diront voilà, c'est un effort d'intégration des bases. Voilà, c'est très subjectif encore une fois. Moi j'apprécie tant que c'est pas que ça.
Non, c'est ça, il faut qu'il y ait de l'originalité, mais c'est qu'il aille piger des bonnes idées dans le passé, c'est quand même très...
Exactement.
Mais ça fait plaisir. Ça me fait penser, c'est ça ce qui je m'étais noté que, sur un bout de papier là, quand j'avais lu ça, le fait que c'était toute cette équipe-là de dessinatrices, puis le commentaire à Loïc, je me disais, mais là, coudonc, pour les prochains Daredevil, est-ce que ça va prendre des dessinateurs aveugles? Des dessinateurs aveugles, tu sais.
Non, mais... Ah, pardon, excuse-moi. J'avais pas... Parce qu'on... J'ai compris, dessinateur avec. J'attendais
aveugle,
la fin de la phrase.
Pour fêter, parce que le personnage représente une xème minorité ou peu importe, là, victimaire, etc. Donc, c'est ça. Moi, je me fous complètement de qui dessine, de qui écrit, de qui fait quoi, de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa couleur de peau, etc. Ce que je veux, c'est du talent. Je veux juste quelqu'un qui connaît son sujet, ses bases, etc., et qui nous offre quelque chose de bon. Donc, c'est ça, la tendance de Marvel de créer des équipes, là, que ce soit...
Pour toi, c'est un titre féministe uniquement, quoi?
Presque. Mais, tu sais, pas nécessairement dans le raconté de l'histoire. Le fait que c'est plein de nouveaux personnages féminins, et ça, je m'en contrefous aussi, etc. Moi, en autant que c'est une très bonne histoire, je vais être comblé, là, tu sais. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression que le résultat, en tout cas, est vraiment pas au rendez-vous. Donc, voilà, j'ose pas dire ma note tout de suite. On avait Loïc, de son côté, tu vois, qui nous disait un bon 15 sur 20, qui va vous choquer, même si je trouve mérité pour cet album. Toi, Thomas, de ton côté?
Eh ben moi, je mettrais un 14, c'est-à-dire juste en dessous de Bounty Hunter, mais clairement surpris. Je m'attendais, si tu veux, à me remettre dedans, à être entre 8 et 11. Et franchement, je suis agréablement surpris, donc c'est bien.
Moi, je suis... écoute, j'hésitais entre 10 au plus bas, peut-être, et 13 au plus haut. Donc, je vais y donner un 11, peut-être, 11 sur 20. Ouais,
donc on est un peu plus de 13, 13,3, 13,5, on va dire, quoi.
Mais j'ai vraiment été surpris, c'est ça, par vos critiques, parce que moi, évidemment, comme tu dis, je les lis.
Bah, ouais, tu me surprends aussi, du coup, mais je comprends tes arguments.
Je les lis en anglais. L'impression que... ouais. À la base, et quand j'avais lu ça, je me disais, ah, c'est ça le début de la nouvelle série. Fait que là, je décourageais tout le monde, mais finalement, content de voir qu'il y en a qui l'ont apprécié.
Mais effectivement, peut-être que du coup, si toi, t'as pas l'impression de retrouver la caractérisation du personnage, c'est un petit peu comme si les gars avaient fait un hors-sujet.
Le pire, c'est que j'ai essayé de le mentionner tantôt en critique, mais il y a plein de points positifs. Il y a des idées originales, on retourne dans l'archéologie, on s'éloigne de la fin de l'autre arc, etc. Il y avait plein de bons concepts, mais échappés, heureusement, je trouve. Donc, ça sera pas la pire, hein. C'est loin d'être la pire note que j'ai donnée à une BD, mais c'est loin d'être la meilleure aussi.
Et pour te dire, du coup, ça m'a même donné envie, déjà, de lire la suite, hein, ça c'est évident, mais de relire, d'aller lire, en fait, les tomes de Afra que j'ai pas lu. Combien il y en a de tomes au total?
Il y en avait 7. 7 volumes. Fait que je sais pas auquel t'avais arrêté.
Ah ouais! Ben, je m'étais arrêté aux deux.
Ouais, t'étais vraiment pas à jour.
Bon, ça va m'occuper dans un sens. Hein.
Ouais, exact.
Parce qu'en plus, on est sur une période creuse de Star Wars.
Ouais, ben là, avec tout ce qui sort de la Haute République, par contre, ça va quand même te prendre.
Ouais, ben nous, en France, si tu veux, moi, une fois que je vais avoir fini en pleine ténèbre.
Ouais, le prochain, ça va aller au mois de janvier. Ben non, il y a un autre Bibliothèque Verte qui vient de sortir.
Oui, mais qu'il faut pas lire tout de suite, parce qu'apparemment, il se passera après les deux adultes de la phase 2.
Non, ça a été exagéré, ça.
Ah ouais?
Que les deux, The Rising Storm et la tour, c'est quoi, non, la tour des Trompe-la-Mort. Les deux se passent en même temps. Donc, nécessairement, un va un peu spoiler l'autre, et l'autre, les deux vont se spoiler un l'autre. Mais c'est mineur, ça n'arrive vraiment rien.
D'accord.
Là, ce que le Bibliothèque Verte va spoiler pour The Rising Storm, honnêtement, après, je sais pas, 50 pages, tu as deviné. Là, ce que ça spoil, c'est le thème général du livre. Ça va pas spoiler la fin ou quelque chose d'important. Là. Donc, c'est ça, j'ai répondu la même chose à un
auditeur. Là, c'est intéressant ce que tu dis alors.
C'est exagéré de dire qu'il faut attendre 6 mois avant de lire l'autre. Non, c'est les deux s'imbriquent. Là.
Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme pépite là, d'ici Noël là?
En roman, on a la réédition de Étoile perdue, hein, qui était.
Oui, ça j'ai déjà lu du coup.
Qui n'était plus disponible du tout. Donc, il va être redistribué au format Pocket cette fois, vu que PKJ n'est plus là. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient? On a Queen's Peril, donc le deuxième des trois là, romans.
Celui-là, je ne l'ai pas.
Est-ce que j'en oublie un? Ça c'est pour novembre et décembre. Donc, chez Pocket, je crois que ça fait le tour, ouais, parce qu'on vient juste d'avoir le deuxième alphabet. Et du côté de Panini, ben, c'est ça, on va avoir...
Haute République.
La Haute République, et comme j'expliquais en début d'émission, j'ai l'impression qu'on va peut-être rapidement aussi avoir un deuxième Afra, parce que sur la série Afra, on avait vraiment pris du retard du côté de chez Panini, alors que sur Bounty Hunters, on a eu le deuxième numéro avant d'avoir le premier.
Ils étaient pressés de les sortir, en fait, que du Afra, ils en avaient déjà, là, il y avait le côté nouveauté des Bounty Hunters.
Ça vient du COVID, en fait. C'est que sur la première série Afra, Panini avait pris du retard, avait reporté le dernier Afra pendant longtemps. Donc, c'est ça, c'est les conséquences de ça. Mais ils n'auront pas le choix un peu de se rattraper parce que les quatre séries sont supposées se passer en même temps. Et pour le fameux crossover ou événement Marvel là, de la guerre des chasseurs de primes, tout se passe les quatre en même temps. Là. C'est vraiment... Là, on retrouve tous les personnages à la même place au même moment. En tout cas, on va voir, là, mais je pense qu'il va sortir beaucoup de Panini dans les prochains mois. Sur ce, Tom, je te suggère qu'on sorte d'hyperespace, qu'on se retrouve à la cantina.
Ça marche.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Fait que quoi de neuf, Thomas, côté Star Wars ces temps-ci? On a parlé un peu de En pleine ténèbre. En pleine ténèbre, c'est ça.
En pleine ténèbre. Donc, du coup, j'en ai parlé rapidement, donc ça me plaît. Et puis, je me suis dit, des fois, j'aime bien m'écarter un peu de Star Wars. Donc, je vous montre mon acquisition de ce matin. Je n'ai pas encore lu, mais ça fait penser à un album qui va sortir. Donc, c'est un comics, hein, évidemment. Qui s'appelle L'héritage de la bête. Donc, ça parle d'Eddie, le personnage d'Iron Maiden. Et donc, c'est une BD qui a été entièrement faite, justement, donc avec les différents Eddie, pour ceux qui sont fans d'Iron Maiden. Voilà, avec un nouvel album qui sort le 3 septembre, donc c'est-à-dire dans 3 jours. Je suis comme un dingue, je n'écoute que ça. Et juste avant, toujours sur la pause musicale, j'étais là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, mais si vous aimez bien le métal, c'est vraiment quelque chose de génial. Aussi, je sais pas si tu connais.
Ouais, j'en ai bien.
Donc Call of the Wild, et ça c'est le dernier Powerwolf, et j'ai vraiment pris mon pied là-dessus, et j'écoute ça en lisant des BD Star Wars. Donc c'est un peu Star Wars quand même.
Ouais, tu avais parlé dans une autre émission, tu écoutais aussi du...
Battle Beast, Beast in Black. Beast, etc. Et d'ailleurs, grâce à toi, j'écoutais Battle Beast, tu m'as dit d'aller voir Beast in Black, Et j'aime encore mieux Beast in Black que Battle Beast. Donc voilà. Ah, ah. Si vous ne savez pas quoi écouter ces temps-ci, que vous aimez du métal, eh bien, allez chercher le dernier album de Maiden avec un Eddie qui est en Senjutsu. Donc Senjutsu, c'est le, ça va être un samouraï japonais. Eddie en samouraï japonais. Oui, les thèmes sont vraiment géniaux. Donc les deux là, qu'ils ont sortis sont vraiment magiques. Donc allez-y, les oreilles grandes ouvertes.
Excellent. Tu vois, de mon côté non plus, c'est relativement calme là, sur Star Wars, mais je voulais mentionner, tu vois, ça fait des années que je me demande si je l'essaie ou pas, puis que je tergiverse. Donc, j'ai fini par acheter mon premier Kaamelott en BD. Donc, Alexandre Astier, donc à l'écriture, les dessins sont de Steven Dupré.
Justement. Et ça raconte quoi?
Celui-là, c'est les sièges de transport. Donc, tu sais, la fameuse anecdote des sièges de transport, le Perceval dit que quand tu t'assois dessus, tu te retrouves dans une taverne dans le Languedoc. Donc, voilà l'aventure des sièges de transport.
D'accord, donc c'est un spin-off un peu.
Ouais, c'est ça. Celui-là, c'est le numéro 2. J'ai pris celui-là parce que le numéro 1 n'était pas disponible. Mais sont rendus à 10 numéros, je crois.
Ah ouais.
Dans la série, ça fait quand même quelques années déjà que c'est commencé. Et c'est toujours des spin-offs, comme tu dis, des à côté. Il y en a un, c'est le fameux serpent géant du lac de l'ombre. C'est que Perceval et Caradoc reviennent de mission, ils ont trouvé une anguille. Puis Arthur dit, ouais, il y avait peut-être vraiment un serpent géant dans le lac. Fait que c'est toujours des tirés de choses qu'on a entendues. Et ça, celui-là se passait, on le voit un peu aux uniformes là, d'Arthur. Et
c'est bien ou pas alors?
Moi j'ai bien aimé le même humour, hein, c'est écrit par Alexandre Astier, donc humour que dans la série. Donc évidemment, les gens qui n'ont pas aimé la série, ben peut-être pas.
Tu as vu les 6 saisons?
Oui, moi je suis un fan inconditionnel. Je
connais et le film?
Tous les épisodes par cœur, et évidemment j'ai vu le film. Là,
et t'en as pensé quoi du film?
J'ai bien aimé aussi, j'ai été déçu par certains aspects, là. J'en ai parlé sur certains fils Discord et compagnie, mais moi c'était sur la durée, je crois qu'Alexandre Astier a fait un choix, ben, il l'a dit lui-même dans des entrevues, il a fait un choix de réduire le film en durée pour justement aller chercher un public, pas juste les fans finis comme moi, d'aller chercher un public plus large.
Il fera une version Director's Cut, c'est ça, après?
C'est ça, ouais, parce qu'il disait déjà, il existe déjà plusieurs versions, en plusieurs longueurs. Fait que moi, j'ai trouvé que le film allait très vite. On passait très vite.
J'ai entendu ça aussi,
d'une place à l'autre, etc. OK, tu l'as pas vu encore?
Non.
Je te conseille, je crois que c'est numéro 1 au box-office en France. Ça a battu tous les records, donc...
Mais j'ai pas été au ciné de tout l'été. On est parti en vacances pendant les 2 mois. Et du coup, on n'a pas eu le temps d'aller au ciné. C'est fou. Et pourtant, il y en a des films à voir. Hein.
Pour conclure sur cette BD-là, je la conseille quand même. Là. Évidemment, c'est au
acheter, donc comme,
À acheter au moins un pour voir si c'est votre style. Ça se lit beaucoup plus vite qu'un Star Wars. Hein. Les dialogues, c'est pas énorme. Ça se lit rapidement. Donc, c'est sûr qu'en temps de lecture pour le prix, c'est peut-être un peu cher.
Et c'est quoi? C'est une quarantaine de pages, non?
C'est franco-belge. Ouais, c'est ça. Un format d'un Tintin ou un Astérix.
Ça. Ouais, c'est ça.
C'est
ouais.
48 pages, je crois. Là. Ouais,
48 ouais c'est ça. Ouais. Ouais, c'est le format franco-belge.
Mais, ça se lit très vite, très simple. Fait que même pour les plus jeunes, moi, toute la famille est fan fini de Kaamelott à la maison. Là, donc, tout le monde va le lire. Fait que je crois que je vais me procurer les 9 autres numéros. En fait, non, je crois qu'ils sont rendus au 9e en ce moment. Mais il faudrait que je vérifie. Bref, voilà, c'était ma geekerie récente, vu que côté Star Wars, c'est un petit peu plus calme.
Super.
Donc, sur ce, mesdames, messieurs, j'espère que vous allez avoir apprécié nos avis. Hein. C'est drôle parce que les gens disaient qu'il y avait une certaine tendance, hein, soit que moi, j'aimais trop ce que je lisais et que Loïc aimait de moins en moins, etc. Ben, toi, t'avais même carrément abandonné la série à fin, hein, Thomas. Eh bien là, on voit que c'est complètement l'inverse pour ce numéro-là. Fait que les gens vont pouvoir...
Nous sommes surprenants.
Ouais, ben puis selon les arguments aussi de chacun, les gens vont pouvoir se faire une idée, voir si ça vaut la peine de l'essayer ou pas. Donc, ne serait-ce qu'en tout cas les complétistes ou ceux qui veulent le tout pour la série Afra, prenez-le quand même. Là. Mais voilà, ça sera vraiment pas mon meilleur. Donc voilà, on vous invite hein, toujours à réagir à ce qu'on a dit, Facebook, Twitter, Instagram, Discord, évidemment sur YouTube si vous écoutez l'émission en vidéo. N'hésitez pas à partager surtout. Hein, c'est comme ça que la communauté croit et on a des super discussions sur notre Discord tous les jours. Il y a des gens qui se joignent à nous et qui amènent leur vision de Star Wars, comme on disait, à chacun son Star Wars. Que ce soit sur des sujets, là on parle évidemment de littérature beaucoup, mais les séries, les films, les cosplays, les objets de collection, etc., il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc venez jaser avec nous. Et encore une fois, ben, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.
Ciao!